Maintenant, on va écouter la conférence de Hélène de Clermont-Galleyrand, qui a une thèse en chimie organique et qui est actuellement responsable de l'équipe innovation chez Chanel.
Merci. Bonjour à tous. Je vais rester assise alors si le micro qui. Est-ce que je peux l'enlever le micro? Parce que moi je suis plus à l'aise quand je bouge. Ouais.
Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors pour nous, c'est d'autant plus étonnant que nous sommes, on va dire, producteurs de produits et de services aujourd'hui, mais pas vraiment producteurs d'images. En tout cas, ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes très connus. Donc, pour vous faire cette présentation, moi, je suis responsable d'un laboratoire de recherche maquillage. Donc, j'ai fait appel à mes collègues, histoire de regrouper toutes les images que l'on peut utiliser dans la société, pas seulement moi au laboratoire maquillage. Et donc ça explique que dans la salle, j'ai mon support technique. En cas de besoin, donc je leur ferai appel. Voilà. Donc en ce qui concerne Chanel, on va utiliser les images dans différents objectifs. Tout d'abord, nous, en laboratoire, on va utiliser l'image pour sélectionner nos matières premières, pour faire des produits innovants, pour valider et caractériser nos formulations, que ce soit en soins ou en maquillage, pour comprendre parfois des interactions chimiques, et enfin, pour donner des spécifications à notre usine qui va devoir reproduire ces produits avec un changement d'échelle, évidemment. Et puis d'autres services, dont je ne fais pas partie, vont utiliser les images, soit dans le but de soutenir des revendications marketing, soit dans le but d'adresser des dossiers à la presse, qui soient percutants, soit simplement dans le but d'acquérir des connaissances qui vont nous permettre d'apporter des réponses plus adaptées aux femmes et à la beauté. Donc, dans un premier cas, on va commencer à s'intéresser à ce que l'on fait en laboratoire, c'est-à-dire la caractérisation de nos formules et la sélection de nos matières premières, voire l'identification et la spécification de nos packagings. Donc le plus simple, en termes d'imagerie, ce qu'on va utiliser au quotidien, c'est la microscopie. Donc là, j'ai pris des cas assez, je veux dire, que vous pourriez imaginer par vous-même. Donc tout d'abord, en lumière polarisée, toutes les matières premières qui présentent des phases cristallines, donc des croix de Malte, on va systématiquement, nous, au laboratoire, vérifier que ça se passe bien comme ça. Et ça va aller jusqu'à l'étape du contrôle qualité en usine. Et puis, les deux images qui suivent, c'est un petit peu différent. Là, on va essayer de caractériser nos formules et l'apport d'une matière première dans cette formule. Donc là, on a une matière première connue pour apporter des cristaux liquides dans nos formules. On vérifie déjà que la matière première elle-même soit bien sous forme de phase cristaux liquides. Et puis on va vérifier qu'une fois introduite en formulation, dans le cas présent rouge à lèvres, ça se voit, le pigment est là. Donc une fois introduit en formulation, on est bien préservé la structure cristal liquide dans ce cas-là, puisque c'est ce qui va soutenir des revendications d'hydratation ou de tenue ou de brillance, en tout cas la performance recherchée. Donc pour nous, c'est intéressant de caractériser ce que l'on fait. Si on veut aller un peu plus loin dans la microscopie, on va partir sur un polescope. Donc là, on va avoir la possibilité de visualiser toujours en lumière polarisée, mais en 3D, la disposition de nos phases organisées. Donc ici, on voit sur la première diapositive des phases lamellaires assez importantes puisque les zones de couleurs identiques sont assez développées. Et puis on voit que simplement en changeant le ratio des huiles à l'intérieur de la formulation, on va obtenir au contraire des tout petits cristaux. Et donc, nous, on est capable de relier ce que la physico-chimie nous montre à une propriété sensorielle. Petits cristaux, ben ça veut dire plus de fondant. Et puis, au niveau résultat maquillage, ça va dire plus de brillance. Donc, en fait, on va chercher à caractériser en physico-chimie de façon à pouvoir prédire ou anticiper des résultats sensorielles ou des résultats maquillage efficacité. Une chose auquel tous les fabricants cosmétiques sont, on va dire, pas confrontés, mais doivent répondre en tout cas, ce sont des règles de stabilité. La réglementation impose 30 mois de stabilité qu'il faut prouver. Donc évidemment, en temps réel, on ne peut pas faire durer nos développements 30 mois. On n'a pas ça pour produire et mettre au point. Donc on est obligé d'avoir des méthodes prédictives. En l'occurrence, un des produits qui nous pose le plus de soucis, puisqu'il est solide, c'est le rouge à lèvres. Prédire une stabilité d'une émulsion, c'est relativement simple. Il y a de la turbidimétrie, il y a des choses qui sont très bien, très corrélées avec la réalité. Sur le rouge à lèvres, c'est compliqué. Un des phénomènes qui apparaît sur ce produit solide et anhydre, c'est l'exudation. Or, tous nos produits sont vendus dans des magasins où il fait chaud, où il y a des spots des fois sur les démonstrations. Et l'exudation dans certains marchés, dont l'Asie, est rejetée. Parce que pour eux, il n'y a pas zéro défaut. Donc le produit est rejeté s'il a le malheur d'exuder en magasin. Donc naturellement, on a développé tout un tas de stratégies qui vont nous assurer, via l'image d'ailleurs, que le produit n'exude pas, quelles que soient ses conditions. Alors, la méthode la plus simple pour commencer, c'est à nouveau la microscopie. Cette fois, on va filmer. Donc là, vous avez, c'est pas très net, une image à T0. Et puis, c'est au maximum, en général, de ses capacités à 20 minutes. Donc là, vous avez une image de ce que ça donne. On voit bien que le milieu a été boursouflé. Il y a une surpression d'huile dans les canaux et le réseau cristallin. Et donc, ça remonte en surface. Donc ça, c'est des choses que l'on visualise dans tous nos développements et on va les filmer de façon à vérifier. Alors, hop, je retourne en arrière. Eh bien non. Alors, dans ce cas-là, je vais sortir et je vais vous le faire à la mano. Hein. Ça va être moins... Donc là, on enregistre et on voit se former, en fait, les gouttes d'huile qui ressortent en surface. On a ensuite une résorption, et si on réchauffe à nouveau le produit, puisqu'on peut lui faire subir des cycles thermiques tels que cela va être dans nos warehouses, dans nos magasins de stockage, on va dire, dans nos zones de stockage, on va voir si ça récidive ou pas. Et donc c'est des choses sur lesquelles on est très prudent. Donc on voit qu'après là il y a une cicatrisation, donc on est plutôt content quand ça se passe comme ça. Sur le même principe, et toujours pour l'exudation, on va utiliser l'interférométrie. Et dans ces cas-là, ça nous permet de visualiser la topographie de surface des rouges à lèvres. Donc ici, vous voyez très bien un port, donc l'arrivée d'un canal d'huile en surface du rouge à lèvres. Et même principe, là on expose donc le produit à 35 degrés, c'est une température où en général il s'exprime bien. Et on va à nouveau, alors j'espère que cette fois ça va fonctionner, on va à nouveau enregistrer ce qui se passe. Donc la goutte se forme et puis petit à petit, elle va se résorber jusqu'à cicatriser. Et ce à quoi on va faire attention, c'est qu'en fait, quand la goutte se résorbe, il n'y ait pas de traces résiduelles de cire en surface qui pourraient laisser des petites traces blanches et qui pourraient faire croire à la cliente qu'il y a une contamination microbienne. Elle ne sait pas que le produit est anhydre, qu'il n'y a pas d'eau. Elle n'est pas censée savoir que les microbes vont avoir du mal à vivre dans ce milieu-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est rejeté à l'achat. Et enfin, toujours sur le même sujet... Et toujours parce que la stabilité des produits solides est très difficile à investiguer et à prédire, on va travailler en diffusion multiple de la lumière. Donc là, on va capter une figure de Speckel. Et donc, il y a des zones au laser, donc rouges. Et les petits éléments diffusants dans ce milieu hétérogène sont donc rouges. Et on va regarder la vitesse à laquelle ça bouge. Donc, plus les pixels bougent, chaque fois que ça bouge, on va dire, on va enregistrer un petit point noir. Et quand ça ne bougera plus, quand le pixel restera de la couleur à laquelle il est, on va enregistrer un petit point blanc. Et donc, on va avoir une matrice qui va se stabiliser au cours du temps. Au début, c'est très instable. Et puis, petit à petit, le milieu va se stabiliser. Donc là, on voit très bien, dans le cas d'un produit qui exsude, on a une période qui est très, très instable. Et puis, au fur et à mesure de, on va dire, de la maturation du stick, du raisin, eh bien, le produit va se stabiliser et finir par cristalliser sans exsuder. Et donc ça aussi, alors j'espère que cette fois, voilà. Là, on enregistre nos figures de Speckle de façon à voir les fluctuations. Donc là, on voit que ça bouge beaucoup moins, la matrice blanchit. Et puis on réchauffe à nouveau, on fait notre deuxième chauffe, jusqu'à ce que le système se stabilise de façon à voir s'il peut ou pas subir des variations de climatique dans les milieux de stockage. Beaucoup plus simple, on valide tout. Alors en maquillage, on valide tout au spectrocolorimètre. On fait donc des tests de sun test. On ne vend pas le maquillage si on ne le démontre pas. On achète avant tout de la couleur. Donc, tout est exposé en magasin, il y a peu de LED, il y a beaucoup encore de lampes qui chauffent et qui décolorent nos produits s'ils sont dans des packagings transparents. Donc du coup, ici, vous avez des produits qui sont exposés à différents temps au sun test et on va tout mesurer en spectrocolorimètre pour voir les variations et juger soit de l'acceptabilité, soit envoyer une demande de renouvellement de ces produits sur nos publicités de lieux de vente, de façon à ce que les conseillères beauté viennent les remplacer régulièrement. Toujours pareil, le spectrocolorimètre est très utilisé, soit en recherche, quand on va mettre au point une gamme de teintes. Donc Chanel est une société qui vend à l'international. Donc ce que vous voyez en France n'est qu'un tout petit panorama de la réalité de notre offre. Donc sur une gamme de fonds de teint où nous on va faire peut-être 30 teintes, en France il va y en avoir 9. Et évidemment à l'international, chaque pays va choisir les teintes qui sont les plus adaptées à ses carnations. Donc nous, quand on construit une gamme de teintes au laboratoire, on passe du beige au beige. Et donc, pour éviter toute possibilité de chevauchement, la cliente qui achète la teinte 1, si elle revient 6 mois après, elle veut la 1, elle veut pas la 2. Donc du coup, on s'est imposé une règle pour établir ces gammes de teintes. Chaque standard de teinte doit avoir un delta E par rapport à la suivante, au moins équivalent à 2. Et puis nos industriels, eux, ils doivent assurer la reproductibilité interlot pendant des années de ces fonds de teint qui ont donc 26 ou 30 teintes. Et donc là, on va leur imposer une acceptabilité de différence de couleur interlot qui est donc de 0,7, un delta E de 0,7, plus ou moins. Ce qui fait qu'entre la teinte 1 et la teinte 2, même s'ils sont dans la teinte 2 en bas de spécification et dans la teinte 1 en haut de spécification, il va rester un delta E de 0,6. Or, un œil exercé ne voit une différence de couleur qu'à partir de 0,5. Donc on estime qu'il ne peut jamais y avoir de chevauchement de teinte et c'est comme ça qu'on arrive à présenter à nos clientes des gammes de teintes échelonnées de façon reproductible. Un peu plus compliqué, il y a quelques années, on a fait une étude où on nous demandait, le make-up artiste nous demandait de copier des voitures plutôt haut de gamme pour des produits sur les ongles. Donc là, il s'agit de Gogno, de spectrocolorimètre multi-angle dans le cas présent, avec des nacres qui sont en fait des nacres voyage dans la couleur. Donc là, on utilise, là j'ai mis un petit comparatif, ici vous avez la nacre classique. Donc, dans le cas d'une nacre classique, les minima et les maxima de pourcentage de réflectance sont situés aux mêmes longueurs d'onde, quel que soit l'angle d'observation, alors que dans le cas d'une nacre voyage dans la couleur, on voit qu'en fonction de l'angle d'observation, les minima et les maxima de pourcentage de réflectance vont varier et vont être différents. C'est ce qui nous permet d'obtenir sur un spectrocolorimètre, non pas un point qui donne la couleur, mais en fait ce que l'on appelle donc un voyage dans la couleur, puisque là on est dans les quatre cadrans de notre spectrocolorimètre, selon l'angle d'observation. Enfin, pour finir sur la partie de caractérisation des formules et des packs, puisqu'un produit, c'est une formule et un pack. Donc, nous proposons aux clientes des rouges à lèvres brillants ou mats. Hein, on fait un peu pour tous les goûts, on va dire. Et donc, ces produits, ben, on les moule dans des tétines de silicone. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc, vous avez ici les moules industriels qui sont photographiés. Et donc, quand on veut faire un rouge à lèvres brillant, on fait ce qu'on appelle dans nos moules un poly-miroir, de façon à ce que l'extérieur du raisin soit très très brillant. À l'opposé, quand on veut faire un rouge à lèvres mat, eh bien on va essayer que la cliente puisse le visualiser avant même de l'avoir appliqué. Et donc, on va dépolir la surface de ces moules. Et donc, c'est quelque chose que l'on visualise en profilométrie optique, puisque pour notre fournisseur, ce n'est pas forcément facile de dépolir les moules, vous imaginez bien, ni de les lisser d'ailleurs. Et donc du coup, on va vérifier que l'intérieur des moules corresponde soit à un produit qui puisse être lisse, soit à un produit qui puisse donner une surface mate. Alors, la deuxième raison pour laquelle, en cosmétologie, on va utiliser des images, c'est que, évidemment, comme toute société, on va dire, qui se respecte, en tout cas qui a pignon sur rue, il faut qu'on évalue les performances de nos produits, déjà par obligation dans nos dossiers réglementaires, mais aussi simplement pour nous aider à formuler correctement, on va solliciter nos collègues qui évalue les performances. Il faut savoir que sur tout produit cosmétique, il y a une obligation. Quand vous avez une revendication en face avant, donc marquée hydratant ou marquée longue tenue, ou je sais pas, enfin, peu importe la revendication d'ailleurs, dès que c'est en face avant du produit, la revendication doit être étayée et démontrée par des preuves. À vous d'établir ces preuves, sauf s'il y a une norme ISO définie sur cette fameuse revendication. Donc nous montons des dossiers réglementaires. Et nous-mêmes, pour être certain d'obtenir la revendication demandée, on va réaliser en interne des tests. Donc on a un laboratoire qui évalue l'efficacité de nos produits. Et quand on est certain de l'efficacité de nos produits, on va alors faire sous-traiter ces tests en laboratoire extérieur. Ça coûte relativement cher, c'est pour ça qu'on y va quand on est sûr, de façon à ne pas être considéré comme juge et partie. Donc, parmi nos besoins, alors je suis désolée, il y a beaucoup d'exemples de maquillage, mais bon, voilà. Donc, nous avons, entre autres, les mascaras que l'on formule. Et donc, on cherche à évaluer in vitro les performances maquillage des mascaras. Donc, nous avons plusieurs gammes de mascaras, toujours dans l'idée de répondre à tous les goûts. Donc, dans un cas, un mascara qui s'appelle Inimitable, que vous trouverez dans toutes les bonnes parfumeries, et donc allongeant et recourbant. Donc nous, c'est les deux revendications qu'il faut évidemment prouver. Et dans l'autre cas, on a un mascara le volume, et là, évidemment, on cherche à être volumateur. Donc on prend des franges de cils. Donc ces franges de cils sont des vrais cheveux, de façon à avoir un dépôt identique à la kératine. Et on a une machine qui tient la brosse et qui fait tourner la brosse et qui applique la brosse sur les cils. Et donc on vient faire des photos. Donc, le mascara recourbant, il recourbe plus que le volumateur. Et pour cause, vu de face, voici ce que ça donne avant maquillage. Et après maquillage, bah, le volumateur, il volume plus que l'allongeant. Effectivement, il est aussi plus lourd. Donc, pour recourber, ça va être un peu plus compliqué. Alors, un développement que l'on a fait avec l'équipe de Christine Fernandez-Moëlloigne, c'est la tenue du vernis à ongles. Donc on avait un dilemme avec notre marketing, on avait beau essayer, j'ose pas dire tous les vernis du marché, mais enfin leur proposer en tout cas tout ce qui était faisable, c'était jamais significativement mieux que ce que Chanel avait déjà sur le marché. Bon, donc on s'est dit à un moment, on va essayer d'évaluer ça de façon un peu plus ou un peu moins subjective. Et donc du coup, on en est arrivé à faire une petite machine. Donc vous voyez, on positionne nos doigts dans un... Il y a comme une empreinte de main. On vient positionner les doigts, pas le pouce, parce que le pouce fait tordre la main. On a une mire couleur également. Et puis, on a donc T0, T plus 3 jours, 5 jours, enfin le temps demandé par le marketing. Et en contraste, voilà ce que ça donne. On va donc ensuite évaluer la surface résiduelle au bout du nombre de jours demandé par le marketing pour la tenue. D'autres préoccupations qui sont très très travaillées chez nous, c'est l'anti-âge. Donc l'anti-âge, en termes d'efficacité, eh bien c'est tout ce qui est rides et ridules, mais c'est aussi tout ce qui est pigmentation cutanée, tout ce qui est taches de vieillesse, tout ce qui est lentigine et tout ce qui est ptose. Alors sous ptose, il faut entendre relâchement cutané. L'effet de la gravité, on va dire. Donc tout ça, c'est des choses que nous allons mesurer et expertiser. Alors pourquoi ça peut vous sembler bizarre, tout ce qui est hyperpigmentation, mais il faut savoir que les rides, ça c'est typiquement caucasien, et les Asiatiques font très peu de rides, et font par contre des règlements au niveau de la mélanine, ce qui mène à des hyperpigmentations et à des taches. Donc le vieillissement n'est pas le même selon les ethnies, et du coup, eh bien, comme on est une société qui vend à l'international, on s'intéresse un petit peu à tous les phénomènes de vieillissement. Donc pour les rides, toujours de la profilométrie optique. Alors là, c'est la méthode que je dirais traditionnelle. Donc on vient faire une empreinte de la patte doigt en silicone, et c'est cette empreinte, en tout cas cette réplique, que l'on va étudier, en tout cas déterminer son relief. Donc ça, c'est la méthode très traditionnelle que l'on pratique encore in vitro, in vivo d'ailleurs, chez Chanel. Un peu plus moderne, on fait ça maintenant par optique, sans faire de réplique. Et en projection de frange, on va déterminer la forme d'un visage. Et on peut donc très bien déterminer le pourcentage de relâchement cutané. Toujours au niveau des rides, donc c'est vraiment, pour l'Amérique et l'Europe, c'est quand même un gros problème de préoccupation des femmes, hein. Donc ici, vous avez avant-traitement, après-traitement. On fonctionne très souvent comme ça sur un mois ou 4-5 semaines de traitement. On va faire donc une étude de la patte doigt, toujours en projection de frange. Les deux images vont apparaître sur la zone que l'on a marquée. Et puis, on va pouvoir faire le bilan avant-après. Je vous le refais pour ceux qui n'ont pas... Hop, hop, voilà. Une préoccupation que l'on a en maquillage, donc le maquillage, on va effacer les rides, mais il faut que ce soit instantané. À la différence du soin qui va agir au bout de X semaines, qui va avoir une action biologique, moi en maquillage, on me dit je suis plus jolie après qu'avant. Donc il faut une action immédiate. Alors je ne sais pas si c'est très visible sur ici, donc c'est un fond de teint soft focus. Ce qu'on appelle soft focus en maquillage, c'est comment effacer des rides optiquement. Donc nous, on joue beaucoup sur la physique. On fait que de la physique en maquillage, d'ailleurs. Et pas de biologie. Et donc, on va jouer sur des phénomènes de diffusion. Alors ici, le plus possible de diffusion pour essayer d'effacer. Ou sur des phénomènes, si on nous demande de la brillance. À l'inverse, on va aller sur de la réflexion spéculaire. Donc tout dépend de la demande. Là, on a eu une grosse poussée d'effet glowy des Coréens, donc on était dans la brillance, et voilà. Mais en général, au niveau des Européennes, c'est toujours le soft focus. Donc je vous ai dit que les Asiatiques vieillissaient beaucoup par des taches de vieillesse, et donc quelque chose que l'on va regarder, c'est l'effet de nos crèmes sur l'homogénéité de la couleur du teint. Donc ici, c'est plutôt une personne caucasienne, mais on peut très bien être amené à faire un produit peau sensible, donc pour des gens qui ont un petit peu de coupe rose ou des choses comme ça. Et donc là aussi, regardez par analyse d'image comment est-ce que le produit agit sur la coloration de la peau et arrive à homogénéiser ou pas. Toujours dans le même ordre d'idées, quelque chose qui est très très demandé en Asie, c'est d'effacer les pores. On doit effacer rides et ridules en Europe et on doit effacer les pores en Asie. Et donc du coup, là aussi, on va chercher des images qui nous permettent de visualiser la taille des pores, de les mettre en évidence, de façon à pouvoir après regarder l'impact du traitement. Et en maquillage, on va beaucoup travailler sur la tenue du teint. Alors j'espère que le Wi-Fi va fonctionner parce que c'est assez rapide, mais encore faut-il que... Ça, c'est notre fournisseur, notre consultant. Eh ben non, ça ne marchera pas, je pense pas. Ah, si. Donc là, c'est la tenue du fond de teint dans le temps. J'espère que ça va continuer.
Pas certain. Je pense pas. Bon. Non. Non, je pense que ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Que fais-je là? Ouais. Pourtant, j'ai le wifi. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer sans l'image. Malgré tout.
Donc ici, on a le visage, on va mettre le fond de teint. Et puis on va regarder tout au long de la journée, en fonction des heures, l'évolution colorimétrique qui va bouger là, forcément, en fonction du teint qui va bouger. Je vous le ferai peut-être tout à l'heure, off, pendant les questions. Et donc, ça va nous permettre d'illustrer la perte d'homogénéité du fond de teint entre T0 et par exemple T7h en fin de journée, que reste-t-il? Là on voit le différentiel entre le début et la fin de la journée. Donc c'est quand même assez visible. Toujours pour valider l'efficacité de nos produits, ici c'est un démaquillant. Donc on a mis la peau avant maquillage, après maquillage. Et puis on va faire un premier démaquillage, on regarde ce qui reste, on évalue ce qui reste, et un second démaquillage, et on évalue ce qui reste. Et ça c'est aussi pour voir la performance de nos produits. Et donc là c'est des analyses d'images par étude des pixels restants de fond de teint. Pour caractériser l'homogénéité d'un teint, on va regarder différentes zones du visage, puisqu'on n'a pas la même couleur sur l'ensemble du visage. Donc ici, on va établir une carte des différentes zones de visage et de leurs couleurs. On va appliquer ensuite le produit que l'on souhaite tester, par exemple un fond de teint. Et puis, on va regarder la couleur des mêmes zones après l'application. Et on va donc regarder quel est l'impact du produit appliqué sur la variation de teinte mesurée. Et comme ça, on va quantifier tout au long de la journée les variations de teinte et la tenue du produit. Ou si c'est un produit qui est censé agir à long terme, et ben on le fera toutes les semaines s'il le faut. La brillance du teint est quelque chose que l'on cherche à éradiquer, puisque en Europe, il faut que le teint soit mat et ne brille pas. Donc là aussi, polarisé croisé, polarisé parallèle, et on va faire des soustractions des deux images pour regarder les zones qui brillent le plus. Alors, Chanel, c'est une société qui fait des études, qui essaye de faire des beaux produits, mais à la fin, il faut les vendre. On a quand même un impératif business non négligeable. Donc du coup, quand on a des chiffres aujourd'hui, vendre un produit en disant plus 8% de je sais pas quoi, c'est vraiment pas impactant. Même si les 8% c'est une vraie prouesse technique, ça ne suffit pas à faire vendre un produit parce qu'il y en a d'autres qui vont annoncer 90%, c'est quelque chose de très différent. Mais le chiffre en tant que tel n'est pas suffisamment parlant ou impactant auprès des consommatrices pour déclencher un acte d'achat, ce qui est quand même notre but ultime. Donc du coup, on va travailler de façon à utiliser les images comme illustration de nos chiffres. Et là, c'est pas forcément nous qu'allons le faire. On a un consultant qui fait ça très bien à notre demande et qui sait parfaitement illustrer nos chiffres de façon à les rendre, on va dire, marketables. En tout cas, présentables pour un discours face à la presse, face aux journalistes. Par exemple, ici, nous avons un démaquillant anti-pollution qui enlève donc les fines particules, donc demande très forte en Chine. Du coup, on va faire un comparatif. Si on nettoie à l'eau, moins 21%, on nettoie avec notre biphase, moins 74% de microparticules ou de nanoparticules sur la peau, ce qui est très bien. Mais le chiffre en tant que tel n'est pas forcément parlant. Par contre, si on met une bonne image derrière, c'est toujours un peu plus vendeur. De même, si on veut continuer à prouver, voilà, ça c'est beaucoup mieux que moins 83%. Je vous la refais parce que c'est un peu rapide là. Hop. Quand il veut. Voilà. Donc ça c'est le genre d'image qu'on va utiliser pour la presse. Là aussi, on mesure systématiquement l'hydratation. Des couches supérieures de l'épiderme, évidemment. Et donc, ça se mesure par des différents stripping. Et donc, nous, on a les mesures. On obtient ça. Après 28 jours d'application, on ne peut pas vendre... Oui. Pas sûr. C'est peut-être moi. je vais reprendre, on verra après. Donc du coup, dans le cas de l'hydratation, nous on va donner les mesures à notre consultant et il va traduire ça en images de façon à ce qu'on puisse illustrer un dossier presse. Donc voilà, là il va nous illustrer nos strippings et il va changer la couleur, c'est lui qui fait ce genre d'image, de façon à ce qu'on puisse nous fournir un dossier un peu plus parlant que plus 28, plus 33%. Par la couleur, c'est tout de suite plus impactant. De même qu'un effet qui est très très demandé en produits de soins, c'est l'effet plumping. Donc l'effet plumping, c'est avoir la peau gorgée d'eau, un peu tendue comme le blanc d'œuf dur. Voilà, pour illustrer. Donc c'est très compliqué d'aller expliquer à la cliente plump de skin. Enfin bon. Donc du coup, au lieu de mettre le stratum corneum, c'est gorgée d'eau de plus 32%, et voilà. Eh bien voilà, on va faire une belle image et là aussi c'est beaucoup plus parlant que tout chiffre. De même que quand il s'agit de mesurer l'efficacité d'un produit anti-âge, on va regarder l'épaisseur du derme, donc des couches un peu plus profondes que l'épiderme. Donc déjà atteindre ces couches-là, c'est un petit peu compliqué. Et donc là on va utiliser l'échographie et le chiffre a l'air très faible, mais c'est quand même une vraie prouesse que d'arriver à optimiser cette couche-là. Donc du coup, ben, on va montrer une photo, là aussi, plutôt que d'annoncer simplement le chiffre. Et enfin, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire in vivo, donc sur les gens, sans faire de vraies biopsies ou autres manipulations. Donc on peut arriver à faire des photos qui sont quasiment identique à celle que l'on aurait en culture cellulaire, sauf que là c'est la vraie vie et qu'on peut marquer sur ces images les cellules que l'on souhaite mettre en avant, donc que ce soit le collagène, l'élastine, les fibroblastes. Donc on peut arriver à illustrer l'efficacité de crème avec des photos qui sont prises sur la peau, vraiment en place et non pas en culture. On a utilisé également tout ce qui est scanner pour illustrer les effets de lifting de nos crèmes. Donc tout ce qui est lutte contre le relâchement cutané. Et donc là on voit qu'on arrive à illustrer ce qui est avant-après traitement avec un bénéfice évidemment pour la consommatrice sur l'architecture du visage. Le problème asiatique, donc les taches de vieillesse sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc là, c'est par microscopie confocale. Donc ici, vous voyez en blanc tout ce qui est mélanine. Donc la molécule chimique qui apporte la coloration de la peau et qui peut amener à des désordres chez certaines personnes. Et puis après 3 mois de traitement, on voit qu'il y a beaucoup moins de mélanine et que la couche basale s'est quand même nettement améliorée. Et donc, ce que l'on voit avec la microscopie confocale dans la peau, on va pouvoir le corréler avec ce que la cliente va réellement voir dans la vraie vie, c'est-à-dire sur sa peau à elle. C'est-à-dire, ben, madame, voilà votre tache et voilà ce qui se passe à l'intérieur. Autre chose que l'on cherche que l'on évalue systématiquement sur nos crèmes de soins, c'est l'élasticité. Donc le principe, c'est assez simple. On vous applique une petite sonde qui va faire un mouvement d'aspiration puis relâcher la peau. Et en fait, on va regarder la déformation induite. Donc si la peau est un peu molle, eh ben, ça va faire une grosse déformation. Alors que si la peau est plus tonique, il va y avoir une petite déformation. Et nous, naturellement, sur ces images-là, on va calculer le volume de la déformation, sa surface, etc., de façon à regarder l'effet du produit sur l'élasticité cutanée. Là aussi, c'est pas très parlant, donner un point bleu en image au marketing, alors que si on illustre avec avant-après, une photo du visage qui se remodèle au fur et à mesure du temps, eh ben, c'est beaucoup plus efficace. Autre chose sur laquelle on a dû mettre une image un peu plus percutante qu'un chiffre, toujours pour nos dossiers donc de presse, c'est tout ce qui est frange, enfin projection de frange. Donc là, c'est pour déterminer le contour du visage et la netteté du contour du visage. Donc là, on voit bien, en mettant un maillage, donc là, notre consultant a eu l'idée de mettre ce maillage, et on voit que le réseau de mailles est beaucoup plus tendu sur la deuxième image, donc après traitement, que avant traitement. Donc ça aussi, ça nous permet d'illustrer de façon plus parlante. Un domaine où nous sommes et qui est moins visible du coup du grand public, c'est l'acquisition de connaissances au travers d'études généralement basées sur l'analyse d'images. Et ces études vont nous permettre de mieux connaître les femmes, mieux connaître leur vieillissement, de façon à faire des réponses pertinentes, voire même à devancer leurs besoins. Donc on va utiliser cette connaissance pour proposer, nous, des produits innovants. Donc ici, vous avez par exemple une énorme étude qui a été faite chez nous. Ce que vous voyez sur chaque continent, ce sont des visages moyens. Donc ça ne représente pas une vraie personne, c'est une addition de visages que l'on a... Alors c'est pas moi qui fais, donc je ne saurais pas faire, mais vous avez la personne dans la salle qui vous expliquera mieux que moi. Donc on a additionné ces visages et on a, pour chaque continent, déterminé des visages types. Donc, pour le détail, voici le nombre de personnes qui ont été traitées pour établir cette carte. Et pour nous, c'est très important parce qu'on va à l'international et donc à chaque ethnie, sa problématique de vieillissement et donc sa réponse cosmétique. En l'occurrence, donc, sur les différences ethniques, on a ici différentes images, cette fois de vraies personnes, ce ne sont pas des images modèles. Et donc, sur ces images, on va étudier les différences ethniques de vieillissement. Je vous montrerai après un travail sur les lèvres qui a été réalisé. On a plusieurs dermatologues en interne, mais donc, cette dermatologue, sur l'ensemble des images de femmes qui ont été faites, elle va établir une échelle de scoring de référence. Donc, le niveau le moins élevé de vieillissement, c'est 1. Et puis, elle va établir son échelle. Et ensuite, toutes les photos de femmes qui vont être réalisées vont passer au travers de son analyse de façon à ce que tous les signes de vieillissement aient un score. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on prend en photo les gens. Donc, Gabriel, qui est dans la salle, est dans l'acquisition de data. Donc on prend en photo face, yeux ouverts, yeux fermés, profil, droit, gauche. Et puis ensuite, notre évaluation clinique commence avec donc on regarde tous les signes de vieillissement, je ne vous les ai pas tous remis, mais on va regarder ici les taches pigmentaires, elle va grossir et elle va choisir dans l'échelle de scoring celle qui correspond le plus. Pareil, pour le pli nasolabial, on va choisir à chaque fois le scoring qui correspond le plus. Et on va ainsi décrire le vieillissement des populations avec des signes caractéristiques de vieillesse par population, par ethnie, par âge. Après, on peut faire naturellement toutes les études que l'on veut sur le sujet. Ça nous a permis, nous, d'établir des différences de vieillissement ethnique. Par exemple, donc, sur les lèvres, en haut des lèvres caucasiennes, en bas des lèvres asiatiques. Et quand on regarde 5 ans après les mêmes personnes, et d'autres personnes naturellement, on parle de traitement statistique, on ne parle pas juste d'une personne, on va utiliser l'analyse d'image pour déterminer le périmètre des lèvres, l'indice de circularité, la longueur des lèvres, la hauteur du centre, la hauteur maximale, la surface totale, la symétrie, etc. Et de tout ça, on va faire une étude qui nous permet de dire que les lèvres des caucasiennes vieillissent en s'amincissant dans le temps, alors que ce n'est pas le cas des japonaises. De même, si on observe les plis, les rides situées juste au-dessus des lèvres, on va voir que la catégorie la plus touchée, ce sont les caucasiennes, alors que les peaux foncées, elles, ne sont pas sujettes à ce type de vieillissement. Ici, on a travaillé sur les facteurs influençant la perception de l'âge. Donc on a des juges naïfs qui viennent regarder des photos et qui vont donner un âge aux photos qu'on leur soumet. Alors après, dessus, il nous est arrivé de faire de l'eye tracking pour regarder comment les juges naïfs regardaient les photos de façon à pouvoir évaluer l'âge. Est-ce qu'ils commençaient par les yeux? Est-ce qu'après ils allaient aux lèvres? Est-ce qu'ils passaient par la couleur, les rides? Donc en fait, il y a quand même un circuit, il y a quand même une façon d'aborder quand on vous demande d'évaluer l'âge de quelqu'un. Inconsciemment, vous avez quand même une méthodologie établie pour une stratégie, on va dire, pour y arriver. En l'occurrence, sur cette étude, donc il y avait 16 visages à évaluer. Donc les juges naïfs ont évalué ces 16 visages et on a obtenu 8 visages perçus les plus jeunes, 8 visages perçus les plus âgés. Il se trouve que les 8 visages les plus jeunes ont une moyenne d'âge réel 66 ans, alors que l'âge perçu était de 59. Les visages évalués les plus vieux, les huit visages, ont une moyenne d'âge réel de 68 ans et ont été évalués, perçus comme 77 ans. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que de ces visages moyens, on va donc pouvoir déterminer, maintenant par analyse d'image, qu'est-ce qui fait qu'une femme soit perçue comme plus jeune ou plus âgée et évidemment apporter les réponses pour qu'on soit toujours perçue plus jeune. Toujours dans la perception de l'âge, on va étudier tous les facteurs qui permettent de lutter contre le vieillissement. Donc un des plus connus, c'est le soleil. Mais quand on vend une crème solaire, c'est important de justifier ce que ça fait quand vous n'en mettez pas. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Sur l'ordinateur, c'est net, mais je ne suis pas certaine que ce soit aussi net pour vous. Alors pour les fumeurs... J'espère que ça va être net, là, cette fois. Ce sont deux jumelles. Voilà. Mais il y a une grosse fumeuse et une qui n'a jamais fumé. Donc, on regarde aussi tout ce qui est lifestyle. Voilà. Et comment est-ce que ça impacte... Oui, ça... Voilà, c'est ça. Ça, c'est très individuel, après, comme évaluation. Alors, on y arrive. Comment est-ce qu'on est perçu féminine ou pas? Les facteurs influençant la perception de la féminité. Donc, ici, vous avez un visage qui est androgyne. Je suis un peu branchée Internet, là, petit souci. Le Wi-Fi me perturbe. Et donc, ce visage, plus il a la peau foncée, enfin... Ce qui va le distinguer. On est toujours sur un visage moyen, hein, peau foncée, peau claire. On va en catégoriser un comme homme, l'autre comme femme. De même que si on ne joue que sur la couleur des yeux et des lèvres, on va voir que quand les lèvres et les yeux sont plus foncés, donc quand les contrastes sont plus marqués, peau claire et yeux et lèvres foncés, on a tendance à juger que c'est plus féminin. Une autre étude a été faite dans le même genre, là, toujours sur les contrastes, et on retrouve sur des peaux asiatiques, sur des visages moyens, à nouveau, deux visages moyens homme-femme, et on voit bien que le visage homme est plus foncé que le visage de femme, et le contraste et en fait plus marqué sur le visage féminin. Et donc pour la féminité, on a fait une étude similaire sur les contrastes. Et en fait, quand une personne vieillit, ses contrastes diminuent. Donc on voit qu'une personne plus âgée, alors je suis désolée parce que moi c'est très clair, mais je ne sais pas si pour vous c'est aussi clair que ça. Donc on voit que la personne plus âgée a des yeux et des lèvres moins marqués en contraste par rapport à sa peau que la personne plus jeune. Et là, donc, on a modifié, on va dire, numérique, la personne. On l'a, on va dire, légèrement maquillée. En tout cas, on a joué sur les contrastes. Et ensuite, on peut faire évaluer son âge ou sa féminité par un panel de juges naïfs. Hein, on peut toujours ensuite... Et donc, on voit qu'on gagne en féminité quand la personne a plus de contraste. Et ça va un petit peu plus loin, parce qu'on voit aussi que le maquillage, puisque le maquillage est un moyen d'apporter artificiellement du contraste, non seulement va jouer sur l'âge, en tout cas sur la perception de l'âge de la personne, sur la perception de la féminité de la personne, mais aussi sur la perception de la compétence de la personne. Ce qui est quand même un peu plus... voilà. En dehors de la confiance en elle et tout ce que ça peut apporter en termes de bien-être, on va dire, psychologique, sur lequel on travaille, évidemment. Mais ce n'est pas le propos. Donc, pour finir, on va... Enfin, je vais essayer, mais... Non, je crois que je ne l'ai pas en Wi-Fi, donc... je vais vous montrer les avancées les plus récentes que l'on fait actuellement, parce que c'est bien de vendre des produits, mais aujourd'hui on est beaucoup dans la vente de services, et puis la grande tendance ce sont les applications digitales de maquillage virtuel, etc., tout simplement parce que la vente par internet est un incontournable. Quand on vend en Chine, c'est un territoire tellement grand, on peut pas avoir un pas de porte dans toutes les villes. Enfin, voilà. Donc, pour des raisons pratiques et puis sociologiques, j'imagine. Enfin bon, on en arrive à vendre sur Internet, et par conséquent, vendre le maquillage, c'est très compliqué. Donc, les applications de maquillage virtuel sont très très développées. Et en 2014, celui qui a ouvert le bal, mais je pense que vous connaissez, donc c'est L'Oréal avec Makeup Genius. Donc c'est un logiciel de maquillage très bien fait, on peut le dire, hein. Même si, alors je vais mettre c'est de la concurrence, donc, mais même si ce logiciel est bien fait, il permet de maquiller effectivement la personne. Après, elle maquille la personne joliment, mais pas forcément réellement. Je m'explique. Vous prenez un rouge à lèvres mat ou un rouge à lèvres brillant, ben sur le digital, c'est compliqué de faire des nuances nacrées, mat, brillant. Vous aurez une couleur sur vos lèvres. Voilà. Vous avez un aplat de couleurs qui vient se mettre sur vos lèvres. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc ça, c'est une pub, hein, mais bon. La pub traduit bien, pour ceux qui connaissent pas, l'idée dans laquelle L'Oréal est partie. C'est ce qu'on appelle une aide à la décision d'achat, ou à l'acte d'achat, c'est quand même plus honnête vis-à-vis de la consommatrice. Donc sur un smartphone, vous calibrez en fait, donc vous prenez en photo, et l'appareil vous calibre, et là vous avez plein de choix. Il va vous proposer soit de prendre un look de Jennifer Lopez ou Eva Longoria ou je sais pas qui, et ou alors il vous propose son catalogue et là vous choisissez dans son catalogue. Et le dernier truc de L'Oréal qui est très fort, parce que jusque là c'était donc purement en ligne, là, vous voyez, elle se photographie, hop, c'est très simple, en plus ça va relativement vite, hein. C'est une appli assez conviviale, il calibre. Donc là, je pense qu'il fait une petite mire couleur quelque part. Je ne sais pas comment c'est fait. Et puis, voilà. Alors là, vous pouvez choisir les looks de tous les people en vogue et les reproduire sur vous. Ou alors, ben, ils ont leur nouveau produit qu'ils vous proposent et qu'ils vendent naturellement. Et donc, ça, c'était pour acheter en ligne. Et maintenant, ils ont sorti des tablettes en magasin, puisqu'ils n'ont pas... nous, on a des conseillères beauté en magasin, mais eux, ils n'ont pas, c'est du mass market. Donc du coup, vous allez en magasin, vous scannez le code barre du produit que vous voulez, et hop, sur la tablette, vous êtes maquillée. Donc ça, c'est quand même super fort, parce que c'est très simple d'acheter sans conseillère. La différence entre une marque de mass market et une marque de sélectif comme Chanel, c'est la conseillère beauté. Et ben là, il n'y en a plus besoin. Vous avez un iPad qui va vous expliquer que cette couleur, enfin, qui va vous montrer que cette couleur, elle est peut-être faite pour vous ou pas. Vous pouvez enregistrer vos looks, vous pouvez les envoyer à qui vous voulez pour demander si ça plaît, voilà. Enfin, vous pouvez, c'est assez convivial. Donc, nous, on a décidé de d'aller autrement sur ce créneau, qui est de toute façon incontournable. Donc, nous, on a décidé d'avoir dans nos boutiques en propre des miroirs que Gabriel, qui est là, a d'ailleurs développé, on peut dire. Et donc, qui permettent à la cliente, mais sur place et dans le magasin, puisque bon, une marque de luxe se doit d'avoir un conseil malgré tout. Voilà, donc on peut faire ça, mais dans nos boutiques où on a passé toute une période pilote qui a été donc validée et qui est déployée maintenant. Voilà, alors bon, je laisse. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, un des buts, c'est de dialoguer avec nos consommatrices. Vous comprenez que l'image, pour nous, c'est important, quel que soit le produit. On a toujours une petite image que l'on peut montrer. Et c'est aussi important pour nous, à terme, via ces applications digitales, d'acquérir des datas sur nos consommatrices. Parce que c'est pas le tout de leur donner les moyens d'acheter. Nous, ce qui est très intéressant, c'est de capter qui est la consommatrice et qu'est-ce qu'elle achète, quitte à lui envoyer un petit conseil de temps en temps ensuite, mais déjà de savoir qui sont nos consommatrices, quels sont leurs problèmes de peau, qu'est-ce qu'elles recherchent. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions...
Je peux vous faire travailler pour faire passer le micro ? Oui ? Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, le micro circule. Alors je vais commencer, dans ce cas-là. J'ai peut-être une question en rapport avec la conférence de Catherine ce matin, qui nous parlait de la différence entre les images brutes et les images retravaillées, voilà, depuis l'appareil de mesure. Alors, comment ça se passe chez vous, les images que vous nous montrez par rapport aux mesures ?
Alors, au laboratoire, nous, ce qu'on fait, donc la première partie, les spéculs, etc., nous, on ne retravaille pas. Nous, on fait des images qui nous permettent de caractériser nos formules, de les comprendre, de les modifier si besoin, pour atteindre la performance escomptée. Moi, le but, c'est pas de bidouiller une image qui me sert de preuve. Donc, je ne retravaille pas. En revanche, mes collègues de l'efficacité qui ont des chiffres, est-ce que tu retravailles derrière ?
Bonjour. Juste, je ne fais pas d'efficacité chez Chanel. Je suis en partie, recherche. Sur le, de toute façon, une image du moment où elle est prise par un système, elle est déjà modifiée en tant que telle. C'est-à-dire que bon, j'ai une information capteur que je bidouille d'une certaine façon pour avoir quelque chose sur un écran. Et même si je change d'écran, j'aurai pas obligatoirement le même résultat. Donc si je veux m'amuser à pouvoir faire ça sur des écrans différents, de toute façon, je vais bidouiller mon image. La question est, si je la bidouille, autant faire en sorte que qu'à chaque fois que je prends une image nouvelle, bah, je la bidouille de la même façon pour pouvoir la comparer avec sa petite camarade que j'ai fait précédemment. Donc c'est ça le jeu, c'est-à-dire que évidemment on essaie d'avoir l'image, comme disait Hélène, la plus belle possible, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de présenter aux gens, parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, parle beaucoup plus qu'un chiffre. Mais on veut relier cette image à un chiffre, donc il faut qu'on s'assure qu'on puisse le faire de la façon la plus sérieuse possible. Donc c'est vrai que nous, en recherche, elle a montré beaucoup de photos qu'on prenait, on s'est attaché très tôt à avoir des images les plus saines possibles, c'est-à-dire avoir le moins de modifications possibles. Ça veut dire quoi ? Typiquement, quand on va faire, comme montrait Hélène, de tout ce qui va être analyse des signes de l'âge, analyse de la couleur, on ne veut pas repositionner la personne sur l'écran. On ne veut pas la déformer. Donc ce qui fait que dès la prise d'image, on essaie de faire en sorte qu'on soit dans les mêmes conditions de lumière, dans les mêmes conditions de position, pour essayer au minimum ces modifications-là. Donc on évite de trafiquer l'image, mais de toute façon, par essence, elle l'est, parce qu'entre mon appareil photo et mon information capteur et ce que je vois sur l'écran, ben, j'ai eu plein de modifications de l'image. Donc, Ça veut dire qu'on les retouche, mais on les retouchera toutes de la même façon. Retoucher une image, bêtement, mettre une balance des blancs, c'est déjà retoucher une image. Changer ma courbe d'exposition, c'est déjà retoucher une image. Par contre, je fais en sorte que toutes les images soient retouchées de la même façon. Donc ce que je vais voir, c'est vraiment les différences de ce que mon capteur a vu, et pas à rajouter à ces différences des différences de modification.
En fait, quand vous retouchez l'image, est-ce que ça fausse le résultat auquel on devrait s'attendre ?
Alors, non. En tout cas, on essaie de faire en sorte le moins possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification volontaire pour dire « Cette personne, je sais que le maquillage doit être plus rouge, donc je vais m'amuser à la rendre plus rouge sous Photoshop parce que ça m'arrange. » Ça, non. Par contre, comme je dis, dans le processus d'acquisition d'image, il y a un certain nombre de modifications qui se font automatiquement ou qui se font par choix, et celles-là sont les plus stables possibles dans le temps pour éviter justement qu'on puisse dire « C'est parce qu'on a retouché l'image qu'on voit ce qu'on veut, mais, et pas parce que c'est ce qu'on a vu quand on a pris l'image. »
Mais oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais vous choisissez, même si c'est stable dans le temps, d'ailleurs dans les labos aussi, ce qui est le plus parlant. Et alors, je sais pas, là, je prends les rides, là, je prends...
Meilleur volontaire, en général. Voilà. Si on doit montrer une image, c'est vrai que soit on prend une image moyenne, soit on peut prendre, pour visualiser, je m'entends. Hein. D'ailleurs, j'ai dû l'écrire à chaque fois que c'était le meilleur volontaire ou le meilleur résultat.
Voilà. Ah bah,
quitte à illustrer, ça va être... voilà. Mais on va pas le cacher, hein.
Non, mais même dans les gammes de couleurs de gris, par exemple, en fonction de ce que vous choisissez, vous accentuez le résultat, vous le rendrez plus visible ou moins visible, je veux dire.
Oui.
Et forcément, s'il y a du marketing derrière, on va prendre le plus visible. Mais c'est de bonne guerre, hein, je veux dire.
Oui. Mais après, c'est vrai, comme dit Gabriel, toutes les images sont traitées pareil. Donc le meilleur résultat sera traité avec le même gris que la moins bonne. Enfin, après c'est.
Non mais typiquement si on prend le cas de tout ce qui est jugement de l'âge, on va demander à 60, 78 de juger des femmes sur photo en disant quel est pour vous l'âge de chaque personne. Là, toutes les images qu'on a prises, il faut qu'on soit sûr que le critère d'évaluation, ça va être l'âge, et pas la couleur de la photo, ou le fond, ou le fait qu'elle soit plus floue, plus nette. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous ? On prend beaucoup d'images, plusieurs centaines. Nous, on fait un tri en disant ces deux images ont trop d'écart colorimétrique, ce qui fait que le juge ne va pas juger l'âge, mais va juger l'écart. Mais on ne va pas changer la couleur d'une image pour la remettre dans un espace colorimétrique autre. On va présélectionner parmi l'ensemble de nos images celles qui nous paraissent les plus cohérentes, les plus stables dans un espace donné, et on va présenter ça à des juges. Ce qui fait que nous, quand on représente, forcément on représente le meilleur candidat, mais dans l'étude, on a montré toutes les photos. On n'a pas fait une présélection et une modification de photos avant de la proposer. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas partout. Par exemple, pour les échelles, d'autres échelles cliniques qui ont été faites par d'autres personnes à d'autres époques, ils photoshopaient les images pour avoir des signes cliniques entre deux échelles qu'ils n'avaient pas vues dans la vraie vie. Nous, toutes les photos qu'on utilise dans nos échelles, ce sont des vraies photos. Ce qui fait qu'on a une échelle qui est peut-être moins belle, mais qui est réelle. Il n'y a pas d'image modifiée dedans.
Puis je peux poser une... Ce qui m'a interpellée dans votre propos, c'était vraiment très intéressant. Hein. Merci pour... J'ai découvert un monde. C'est quand vous parliez des chiffres, là, 73%,
oui.
Pour le client moyen ou la cliente moyenne, ouais. C'était pas parlant. Mais quand on regarde les images qui sont à côté, je sais pas, si vous prenez l'image du pulping ou je sais plus comment ça s'appelait.
Stripping.
C'est amusant parce que on se dit 73%, si on était dans un niveau d'éducation moyen, ça devrait quand même parler. Alors que l'image, ce qu'il y a dessus, je suis sûre que les gens sont absolument incapables de comprendre ce qu'il y a sur cette image. Mais visiblement, ça leur parle mieux quand même.
Oui.
Et ça dit quelque chose de nos sociétés.
Il y a une influence de chiffres, c'est énorme.
On ne comprend rien sur l'image. Enfin, la cliente moyenne ne comprend rien, mais ça a l'air de plus lui parler que mettre 60%.
Alors, par contre, j'ai peut-être sauté une étape. Il y a la cliente moyenne qui est au bout du... Madame Michu, elle est au bout de la chaîne. Hein. Mais nous, avant d'arriver à Madame Michu, on passe par les lancements presse. Les journalistes qu'on invite avec grand falabala dans des lieux magiques. Et là, on fait... parce que le but, enfin, ça a l'air de rien, mais le but, c'est de gagner de la presse gratuite. quelque part. Donc, et ces dames-là sont hyper expertes. Hyper expertes. Elles sont invitées partout. Elles ont une connaissance pire que les dermatologues. Voilà. Et donc, du coup, quand je parle de l'image pour la presse, c'est pas toujours pour la cliente finale qui, elle, va, en gros, à moins qu'elle soit très éduquée, au mieux, elle va lire le petit leaflet en 26 langues qui est dans le carton. Oui, oui. Mais voilà. Elle n'aura pas les photos, effectivement. Mais dans tous nos dossiers de presse, ça y est. Et ça ne s'adresse peut-être pas, effectivement, à la cliente finale. Mais les journalistes beauté font vendre. Hein. Et ça, il y a les pays entiers qui passent. Hein. Donc, on se transforme des fois quand même en zoo au labo. On fait, on a des visites toutes les semaines. Hein. Donc, c'est très impactant, la presse, aujourd'hui. Et après, ce qui est très impactant aussi aujourd'hui, j'en ai pas parlé, c'est tout ce qui est diffusé par les blogs. Bon, j'ai encore un autre monde, puisqu'aujourd'hui, la presse traditionnelle n'est plus ce qui fait vendre non plus, c'est tout ce qui est réseautage. Donc, on abreuve ces gens-là avec des données qui leur parlent, le digital, c'est pas le chiffre, hein, c'est pas les mots, et ils s'en moquent, hein, du blabla. C'est les films, vidéos, machin, voilà, c'est ça. On s'adapte.
Comment dire, globalement, le pourcentage d'analyse que vous faites en termes de traitement de données par rapport à une analyse qui serait plus experte en termes d'annotation ou des choses comme ça, en termes de développement.
Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre. C'est-à-dire,
là, vous avez présenté des choses qui pourraient sortir d'un traitement dit automatique, où on aurait des modèles, des choses comme ça, qu'on estime des paramètres, faire des choses comme ça. Puis après, il y a la partie... je dirais experte, dermatologue qui annote, etc. Et qui finalement, il y a la partie algorithme et puis il y a la partie expert, quoi.
Donc, d'accord.
Je sais pas quelle est votre politique vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez des aspects actions fortes sur les aspects traitement ou vous préférez toujours passer par des experts spécifiques?
Oui. Ah, vas-y.
En recherche, on va vers le digital, évidemment. Vous voyez ici, sur la base de données aujourd'hui qu'on a sur de photos de femmes qui ont été cotées par nos dermatologues, on doit être à peut-être 18 ou 19 000 photos. Ça paraît beaucoup, mais c'est rien aujourd'hui dans le monde où on peut prendre des millions de photos à la volée. Donc oui, on va vers de plus en plus vers le digital, mais je vais pas vous mentir, aujourd'hui, personne est venu en nous disant « je peux vous garantir » une analyse clinique en automatique qui vaut largement celle d'un dermatologue. On a fait des tests il y a plusieurs années, ça marchait moins bien. On se dit avec la technique qui évolue, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va aller de mieux en mieux. Aujourd'hui, on voit vraiment pas quelque chose qui émerge, qui fait « je peux me débarrasser de mon dermatologue et je vais voir un informaticien ». Vraiment. Aujourd'hui, ce matin, bêtement, j'étais dans le train et j'ai passé 2 heures à détourer des lèvres. D'un visage parce que j'ai pas d'algorithme aujourd'hui qui me permet de faire une très belle détection et de très bien me détourer des lèvres. Et quand je fais de l'analyse d'image, ben je veux analyser les lèvres et pas la peau qu'il y a autour. Et ben aujourd'hui je trouve pas, donc je me suis tapé 150 lèvres ce matin, puis je vais m'en retaper 150 ce soir. Donc et aujourd'hui ça n'existe pas. On travaille sur tout ce qui va être détection automatique des points sur un visage. Il y a de très belles bases de données qui existent. Aujourd'hui, en automatique, même avec des très bons systèmes, il y a des couacs et on peut pas se permettre devant une cliente de vous dire votre œil il est là. Ouais, non, ça, on peut pas le faire. Donc c'est vrai que nous, on adorerait pouvoir aller de plus en plus vers du semi-supervisé. On veut pas automatiquement du tout automatique. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut aller sur Mars, mais on peut pas détourer un visage correctement. C'est très paradoxal, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas.
Ok, merci. C'est intéressant comme réponse. Une dernière chose. On a vu des expérimentations avec sûrement des éclairages particuliers ou des conditions d'exposition particulières. Comment ça évolue? Est-ce que vous faites des mesures un peu en dynamique ou
C'est Gabriel donc, qui fait une acquisition d'images. Donc,
Alors, non, historiquement, quand on voulait faire des photos, on vient d'un monde quand même d'images. On a commencé par faire des choses assez bêtes. On a fait un studio photo, quoi. Donc on s'est dit, on fait comme un photographe. Et c'était super, sauf que toutes les nanas étaient trop belles. C'est-à-dire que la photo de studio est très bien, mais elle, a tendance quand même à trop arranger les gens. Donc quand on veut voir des signes de l'âge et que la photo gomme tout, ben on voit plus rien. Donc on est allé vers des choses un peu plus, on va dire, réelles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus jouer sur les éclairages. On va être sur des éclairages qui vont être moins diffus, pour justement voir un peu plus les défauts. On va être sur des éclairages qui vont être, comme disait Hélène, sur des images polarisées. On va commencer aussi à éclairer différemment, c'est-à-dire qu'on va éclairer le haut du visage, on va prendre une photo, le bas du visage, le haut du photo, pour avoir des ombres portées plus fortes, pour avoir des effets plus forts. On va jouer aussi beaucoup sur la couleur. Avant, on travaillait sur des LED, sur de l'incandescent, donc on travaillait sur du orange, quoi, enfin du jaune. Aujourd'hui, on travaille comme tout le monde sur du LED, donc on peut se permettre d'aller vers des bleus, vers des couleurs plus froides, plus chaudes. Donc on commence à jouer là-dessus.
Et juste une dernière question, parce que c'est très intéressant. Comment voyez-vous, parce qu'en fait, on voit que beaucoup de problématiques aujourd'hui en termes d'analyse de traitement, etc., se fondent sur des analyses de bases de données de tests, des choses comme ça. Mais des fois, ça pose un problème aux industriels, parce que bon, il y a des choses qui peuvent être sensibles en termes de traitement, de résultats, etc., etc. Et comment voyez-vous l'avenir là-dessus ? Est-ce que c'est un problème qui vous touche pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui va devenir sensible, sachant que j'imagine si vous avez des milliards de lèvres à traiter, vous allez vous épuiser personnellement. Donc,
j'en peux plus. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a un étudiant aujourd'hui qui étudie le vieillissement. Et un truc tout bête, c'est comment on reconnaît un visage sur une image. Et au final, j'ai loupé le nom de la base de données, mais il a pris une base de données qui est utilisée, je crois, par nos amis américains, et je pense par beaucoup de la communauté scientifique, qui a appris sur des tables et des chaises, mais qui a jamais appris sur un visage, qui sait reconnaître, je crois, 10 000 objets différents, enfin un truc comme ça, mais et jamais de visage. Et au final, il apprend à lire des visages, alors que la base de données n'a jamais vu un visage, et il essaie d'apprendre à partir de tables et de chaises comment on reconnaît un visage, et ça marche pas trop mal. Et je me dis, si on arrivait entre les Chanel, les L'Oréal, les Estée Lauder à mettre en commun toutes nos données, parce que des photos de visage on en a plus qu'il nous en faut, je pense qu'on pourrait avancer bien plus vite là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait chiche avec nos 18 000 photos au final. Et il faut attendre des Google, presque, aujourd'hui, pour venir en aide, alors qu'on a, je pense, largement la matière de quoi faire. Et je pense qu'on va essayer, on le fait dans d'autres domaines, de se regrouper pour essayer de mettre en commun cette base de données. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on nous a volé de l'information, parce que c'est de l'information qu'on ne connaissait pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va essayer de la mettre en commun pour aller plus vite et mieux, parce qu'aujourd'hui, des tables et des chaises, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
Bonjour, excusez-moi. Vous avez parlé que justement vous détouriez des centaines de lèvres à la main, mais qu'un logiciel ne le fait pas correctement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas compenser le non correctement par le nombre ? C'est-à-dire que vous êtes limité à faire 500 lèvres par jour, mais est-ce que si un ordinateur ne faisait pas 100 000 lèvres et mettait une loi statistique, ça ne comblerait pas ce problème qui est fait de la qualité ? Compenser la qualité par la quantité.
Donc ça, c'est le trend actuel. Hein. C'est je prends n'importe quelle mesure complètement pourrie, puis avec le nombre, je vais réussir à avoir quelque chose de correct. Je peux pas vous dire, j'ai pas 100 000 lèvres aujourd'hui à tester pour savoir si un algorithme pourrait me le faire. On a vraiment ce souci-là hein, aujourd'hui, c'est que dans certains domaines, on a des quantités de données qui sont tellement affligeantes qu'on peut penser que le nombre va compenser la qualité. Et je pense que dans énormément de domaines, ça va être le cas. Aujourd'hui, on a juste pas assez de données pour pouvoir aller vers ce genre de méthodologie-là. On y va au fur et à mesure, hein, parce qu'on fait nos campagnes de mesure, on arrive à développer notre base de données, mais c'est vrai que par rapport aux chiffres qu'on peut avoir dans d'autres domaines, on est vraiment on est ridicule, quoi. Donc j'ai pas 100 000 lèvres pour tester. Et si j'en avais 100 000, peut-être qu'on pourrait discuter, mais aujourd'hui je peux pas vous dire.
Vous avez parlé, je ne sais pas c'était dans quel slide, mais on dit souvent qu'une image c'est beaucoup mieux parlant qu'un chiffre. Je suis complètement d'accord. Généralement, quand on achète pour ça. Mais ceci dit, un chiffre c'est beaucoup plus précis. Et c'est un chiffre, c'est de la science.
Oui. Voilà. On est d'accord. C'est pour ça qu'on a le chiffre. Ouais. On l'a, nous. C'est ce qu'on va mesurer au labo. Moi, quand je mesure une couleur, j'ai mes paramètres couleurs mesurés. Mais entre une couleur mesurée et la photo de la couleur, la cliente, elle va préférer la photo de la couleur que ses coordonnées spectrocolorimétriques. Donc en fait, c'est toute la différence. Je suis d'accord que pour faire n'importe quelle couleur de maquillage et vérifier qu'on n'est pas identique à une qu'on a faite il y a 10 ans, on va se baser sur cette base de données mesurée. C'est évident. Maintenant, pour vendre et pour faire parler, rien ne vaut une belle photo. Ce qui n'empêche pas que le chiffre soit communiqué avec. Hein. Quand on envoie une photo sur un document de presse, on met le chiffre avec. Mais l'illustration est quand même importante.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que le chiffre est affaibli, au fait, par le fait que de la non-existence d'une norme qui mesure, exemple, la vieillesse? Et du coup, chaque entreprise mesure la vieillesse et donne un pourcentage selon sa méthode à elle. Et du coup, pour nous, en tant que consommateurs, les chiffres, ça ne nous parle pas beaucoup parce que c'est pas normé.
Oui.
Est-ce que c'est pas ça la cause qui fait que le chiffre est faible?
Alors, c'est possible, ce que vous dites, mais il y a quand même certaines choses qui sont normées. Par exemple, l'hydratation. C'est un protocole normé. Donc, on obtient un chiffre. Et c'est vrai que nous, là, on a voulu, je ne sais plus où c'est, mais on a voulu l'illustrer parce que c'était mieux de l'illustrer avec un gradient de... Là, on est déshydraté, comme on peut voir en surface de la peau. Et bon, quand on a plein d'eau, on devient bleu. Voilà. C'est vrai que, je comprends bien, c'est assez basique. C'est quelqu'un, nous on n'est pas producteur d'images, donc c'est quelqu'un qui le fait à notre demande. Mais le chiffre est effectivement scientifique et permet de comparer de façon réelle des résultats et des efficacités. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre et on ne touchera pas les mêmes cibles, en fait, si on a et la photo et le chiffre. Il y a la cliente rigoureuse qui va dire « Ah, plus tant, celui d'avant, il faisait que 27% et là, j'ai 28%, super. » Alors qu'il y a la cliente qui n'est pas du tout branchée scientifique ou chiffre, ou justement. En fait, on s'adresse quand même... en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse, d'ailleurs, nous. Donc, c'est bien de pouvoir toucher différentes sensibilités.
Merci.
Je voudrais vous poser une question plus générale sur votre travail en laboratoire. Donc, vu que nous avons dans la salle donc 70 doctorants, dont une bonne partie travaille en big data ou en traitement d'images, je voudrais savoir évidemment comment se passe votre travail au quotidien, par exemple vos délais de recherche, délais de publication. C'est de la recherche sur quelle durée, voilà.
D'accord. Alors, moi, je suis en recherche. Il y a peu de temps, je faisais aussi du développement. Donc, j'ai juste les deux casquettes. Alors, on va dire, pour la partie développement, aujourd'hui, un brief marketing qui arrive au laboratoire, il a 24 mois pour être mis sur le marché. Ce qui correspond, en gros, à 6 mois de mise au point texture. S'il y a une gamme de teintes, on a droit à 3 mois supplémentaires. Mais en fait, derrière, il y a le changement d'échelle sur les premières teintes qui commence, donc nos collègues du pilote et de l'industrialisation, suivi par, donc on passe de 500 grammes, 1 kilo au labo à 20, voire 50 kilos au pilote, et puis on part à l'usine où on va faire 100 kilos, 400, une tonne. Donc tout ce processus est long, parce qu'en fait, arrivé 6 mois avant le lancement, il faut fabriquer l'ensemble du monde entier, distribué par la supply chain dans l'ensemble des continents, de façon à ce que le jour J, nos beauty advisors mettent sur le comptoir à la date de lancement prévue. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc, quand il n'y a pas de recherche, c'est 24 mois. Quand il y a une recherche, ce qui peut être le cas, nous, on peut déjà avoir travaillé sur un projet 2-3 ans au préalable. On a lancé une crème main, donc vous avez peut-être vu dans les scorings, il y avait une échelle, il y avait des mains, parce qu'on a lancé une crème main. Cette crème main avait débuté par toute une étude de vieillissement de la main, puis les actifs de la main, on extrait nous-mêmes nos propres actifs, on a une équipe qui recherche ça dans le monde entier. Donc l'extraction des actifs, la mise en formulation dans une formulation qui permet de vectoriser ces actifs et de les rendre biodisponibles. Donc si vous voulez, il y a tout ça, la validation de la performance des crèmes, ou des fonds de teint, ou des maquillages. Donc c'est quand même un processus très timé, le passage dans les mains du toxicologue, les tests in vitro pour les hoquets toxicologiques et réglementaires, l'envoi de l'ensemble des dossiers dans tous les pays du monde, parce que notre service réglementaire est très sollicité, un produit dans un pays égale un dossier à l'atteinte, évidemment. Donc c'est énormément de travail pour un produit lancé. Il faut bien 24 mois, et nous, on peut avoir travaillé en recherche 2 mois avant. Pour les publications, je dirais que on a beaucoup de... Tu me contredis, beaucoup de liberté. Moi, je publie quand je veux, si je veux, si j'ai envie. Là, j'ai été sollicitée, on m'a dit oui. Demain, je vais à Naples, je vais en Corée. En fait, on a, à partir du moment où nos résumés sont acceptés, généralement, on n'a jamais de... On est quand même très... très autonome, on va dire.
Juste un tout petit... Je suis complètement d'accord avec ce que dit Claire, ce que dit Hélène. Je pense que la philosophie a un petit peu changé chez nous ces derniers temps. C'est qu'on était, alors en termes de recherche, moi qui suis plus en recherche, on est exactement sur les mêmes temporalités qu'on peut avoir n'importe quel labo. C'est-à-dire qu'on travaille avec des thésards, c'est 3 ans. Quand on a des contrats avec des universitaires, c'est souvent sur 3, 4, 5 ans. Ouais. Donc on est sur cette même temporalité-là. C'est vrai qu'on avait, quand le laboratoire de recherche a existé, on a misé beaucoup sur la publication parce qu'il fallait qu'on se fasse un nom dans le milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus regardant et on passe toujours par la phase, est-ce qu'on peut breveter? Et si oui, on retarde les publier et sinon, on publie directement. Donc maintenant, on est un peu plus, on est un peu plus drivé par les brevets, mais je pense qu'en recherche, même fondamentale, ça doit être un peu pareil.
Nous, on est industriel, on brevette avant tout, sauf les procédés. On va jamais donner notre savoir-faire. On brevette une formule. Parce que de toute façon, la liste d'ingrédients, elle est écrite sur le pack. Donc autant la breveter, au moins comme ça, c'est pas copiable. En revanche, on va sûrement pas breveter notre mode opératoire. Parce que le savoir-faire, il est là. Et on va pas le dire. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ? Un taxi. Un taxi surtout. Alors nous allons à nouveau remercier Hélène de Clermont-Calrande pour sa conférence. Ainsi que son soutien technique. Donc nous avons une pause café jusqu'à 16h, pause café qui sera aussi l'occasion de discuter avec les doctorants qui ont proposé des posters. Ce sera la première fois où ils pourront nous présenter leurs posters, et on terminera aussi demain matin par une présentation de posters en salle.